Chapitre 11. L'histoire tire davantage à sa fin. Quand M. Weston fut sorti, Jones instruisit M. Allworthy et Mrs. Miller que sa liberté lui avait été procurée par deux lords qui, avec deux chirurgiens et un ami de M. Nightingale, s'étaient rendus chez le magistrat qui l'avait envoyé en prison et qui, sur le serment des chirurgiens que la personne blessée était tout à fait hors de danger, l'avait complètement acquitté. Il dit qu'il n'avait vu précédemment qu'un seul de ces lords, et pas plus d'une fois, mais que l'autre l'avait beaucoup surpris en lui demandant pardon d'une offense dont il s'était rendu coupable envers lui, et occasionnée entièrement, lui dit-il, par son ignorance de ce qu'il était. Voici le fait, dont Jones ne fut lui-même instruit que par la suite. Lorsque le lieutenant que Lord Fellamar avait employé, d'après l'avis de Lady Bellaston, pour presser Jones en qualité de vagabond, lui fit son rapport de ce qui s'était passé, il parla très favorablement de la conduite de M. Jones sous tous les rapports, et assura Milord qu'il avait sûrement pris une personne pour une autre, que ce Jones était sans doute un gentilhomme. En sorte que Milord, qui était homme d'honneur, et n'aurait en aucun cas voulu se rendre coupable d'une action que le monde aurait condamnée, fut extrêmement affligé de l'avis qu'il venait de recevoir. Un jour ou deux après, Lord Fellamar se trouva à dîner avec un pair d'Irlande qui, en parlant du duel en question, instruisit la compagnie du caractère de Fitzpatrick, auquel il faut convenir qu'il ne rendit pas une exacte justice, surtout en ce qui avait rapport à sa femme. Il dit qu'elle était la plus innocente, la plus outragée des femmes, et que la pitié seule l'avait engagée à plaider sa cause. Il déclara alors l'intention où il était d'aller le lendemain matin chez Fitzpatrick afin d'obtenir de lui, s'il était possible, son consentement à une séparation d'avec sa femme qui, dit le père, craignait pour sa vie si elle retournait jamais sous la puissance de son mari. Lord Fellamar convint d'aller avec lui pour pouvoir s'éclaircir davantage sur le compte de Jones et apprendre les circonstances du duel, car il n'était nullement tranquille sur le rôle qu'il avait joué en cette affaire. Aussitôt que Milord eut donné à entendre qu'il s'emploierait avec plaisir à la délivrance de la pauvre dame, il fut tendrement embrassé par le père d'Irlande, qui comptait beaucoup sur l'autorité de Lord Fellamar, pensant qu'elle contribuerait efficacement à amener Fitzpatrick où on voulait, en lui imprimant du respect. Et peut-être avait-il raison, car le pauvre Irlandais ne vit pas plus tôt que ces deux nobles personnages s'étaient chargés de la cause de sa femme qu'il se soumit incontinent. Les articles de la séparation furent aussitôt déposés sur la table et signés par les deux parties. Fitzpatrick avait été tellement convaincu par Mrs. Waters de l'innocence de sa femme à Hampton, relativement à Jones, ou peut-être par d'autres motifs, était devenu si indifférent à son sujet, qu'il parla hautement à Lord Fellamar en faveur de Jones, prit tout le blâme de l'affaire sur lui et déclara que Jones s'était conduit tout à fait comme un gentilhomme et comme un homme d'honneur. Milord le pressant de questions sur Jones, Fitzpatrick lui dit qu'il était le neveu d'un gentilhomme d'une grande fortune et d'une grande naissance, ce qu'il venait d'apprendre de Mrs. Waters après l'entrevue qu'elle avait eue avec Dowling. Lord Fellamar crut alors qu'il lui convenait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour donner satisfaction à un gentilhomme qu'il avait si grossièrement offensé. Et n'ayant plus aucun motif de rivalité, car il avait tout à fait renoncé à Sophie, assuré d'ailleurs autant par Fitzpatrick que par son chirurgien que la blessure n'était pas mortelle, il se détermina à procurer la liberté à Jones. Il fit donc consentir le père d'Irlande à l'accompagner à la prison de Jones, envers lequel il se conduisit comme nous l'avons vu ci-devant. Quand M. Allworthy revint chez lui, il emmena Jones dans sa chambre et l'instruisit de tout ce qu'il avait appris de Mrs. Waters et de M. Dowling. Jones témoigna beaucoup d'étonnement et non moins de douleur à ce récit sur lequel il ne fit ni commentaire ni observation. En ce moment, M. Blifil envoya demander si son oncle avait le loisir de le recevoir. M. Allworthy frémit, pâlit, et d'un ton plus irrité qu'il ne l'avait, je crois, jamais eu, il chargea le domestique de dire à Blifil qu'il ne le connaissait pas. « Considérez, mon cher oncle, s'écria Jones d'une voix tremblante, j'ai tout considéré, et c'est vous, vous-même, qui porterez mon message à ce scélérat. Il convient que sa sentence lui soit portée par celui dont il a si abominablement concerté la ruine. Pardonnez-moi, mon cher oncle, un moment de réflexion, j'en suis sûr, vous convaincra du contraire. Ce qui ne serait peut-être que justice dans la bouche d'un autre, serait dans la mienne une insulte. Et envers qui? Envers mon propre frère, envers votre neveu. Il ne m'a pas traité si cruellement que vous voudriez que je le traitasse. Cette conduite de ma part serait plus inexcusable que tout ce qu'il a fait pour me nuire. La fortune peut rendre injustes les hommes qui ne sont pas d'ailleurs très méchants. Mais les insultes ne peuvent provenir que d'un caractère cruel et vindicatif, et non pas même la tentation pour excuse. Permettez-moi donc de vous conjurer de ne point agir contre lui dans la première chaleur de votre ressentiment. Considérez, mon cher oncle, que je n'ai pas été moi-même condamné sans avoir été entendu. » Monsieur Allworthy garda un moment le silence, et puis embrassant Jones, il lui dit, les yeux inondés de larmes, « Oh, mon enfant, à combien de vertus ai-je été si longtemps aveugle ?» Mrs. Miller entra dans ce moment, après avoir frappé à la porte un petit coup qui n'avait pas été entendu. La pauvre femme, voyant Jones dans le bras de son oncle, tomba à genoux dans un transport de joie et rendit au ciel les plus vives actions de grâce pour tout ce qui s'était passé. Puis, courant vers Jones, elle l'embrassa de tout son cœur et lui dit « Mon très cher ami, je vous félicite mille et mille fois de cet heureux jour. » Puis, se tournant vers M. Allworthy, elle lui adressa les mêmes félicitations, auxquelles il répondit « en vérité, Mrs. Miller, je suis heureux au-delà de toute expression. » Après qu'ils eurent donné carrière à leur transport mutuel, Mrs. Miller les pria tous deux de descendre dîner dans le parloir, où, leur dit-elle, il y avait une assemblée de gens heureux. C'était M. Nightingale et sa femme, et sa cousine Henriette avec son mari. M. Allworthy s'excusa de ne point accepter son invitation, disant qu'il avait ordonné un léger repas pour lui et pour son neveu dans son appartement, attendu qu'il avait à l'entretenir d'une affaire très particulière. Mais il ne put s'empêcher de promettre à l'excellente femme d'accepter son souper pour Jones et pour lui. Mrs. Miller demanda alors ce que l'on ferait de Blifil. « Car, dit-elle, je ne puis être tranquille tant que j'aurai un scélérat comme lui dans ma maison. » M. Allworthy répondit qu'il n'était pas plus tranquille à cet égard. « Oh bien, s'écria-t-elle, s'il ne s'agit que de cela, laissez-moi faire. Je lui ferai bientôt voir le dehors de ma maison, je vous le garantis. Il y a là-bas deux ou trois gaillards bien vigoureux. Il n'est pas besoin de violence, dit Allworthy. Si vous voulez lui porter un message de ma part, je suis convaincu qu'il ne se fera pas presser pour sortir. Si j'irai, dit Mrs. Miller, je n'aurai de ma vie rien fait de meilleur cœur. » Ici Jones l'arrêta et dit qu'après y avoir plus mûrement réfléchi, si M. Allworthy y consentait, il porterait lui-même le message. « Je suis, ajouta-t-il, suffisamment instruit de vos volontés, et je vous demande la permission de les lui faire connaître de ma propre bouche. Je vous conjure de réfléchir sur les terribles conséquences qu'il y aurait de l'entraîner à un désespoir violent et soudain. Il serait affreux pour lui de mourir dans la situation d'âme où il se trouve. » Tout cela ne fit aucune impression sur Mrs. Miller, qui s'en alla en s'écriant « Vous êtes trop bon, Monsieur Jones, infiniment trop bon pour vivre en ce monde. » Mais le discours de Jones en fit davantage sur M. Allworthy. « Mon cher enfant, dit-il, je n'admire pas moins la bonté de votre cœur que la promptitude de votre jugement. Le ciel ordonne en effet que ce malheureux ne soit pas privé des moyens et du temps nécessaires au repentir. Cela serait en effet une réflexion affreuse. Allez donc le voir et servez-vous de votre prudence. Ne le flattez cependant d'aucune espérance de grâce, car je ne pardonnerai jamais son infamie plus que ma religion ne m'y oblige, et elle n'exige pas assurément que nous soyons les bienfaiteurs ou les amis des scélérats. » Jones se rendit sur le champ à l'appartement de Blifil, qu'il trouva dans une situation qui émut sa pitié, mais qui aurait excité un sentiment beaucoup moins aimable dans une foule d'autres spectateurs. Il s'assit sur son lit où il le voyait livré au désespoir et inondé de larmes. Non de ces larmes que fait couler une véritable contrition et qui lave les fautes de ceux qui se sont laissés séduire ou surprendre sans précaution, malgré la bonté de leur disposition naturelle, ce qui arrive souvent à l'humaine faiblesse, et même au meilleur des hommes. Mais de ces larmes que verse, dans la charrette qui le mène au supplice, le criminel effrayé, et qui ne sont que l'effet de la douleur physique que les scélérats les plus endurcis manquent rarement de ressentir pour eux-mêmes. Il serait aussi désagréable qu'ennuyeux de décrire cette scène dans tous ses détails. Il suffira de dire que Jones y poussa la bonté à l'excès. Il n'omit rien de ce qu'il crut propre à relever les esprits abattus de Blifil avant de lui communiquer la résolution de son oncle, qui lui prescrivait de quitter la maison le soir même. Il offrit de lui fournir tout l'argent dont il aurait besoin, l'assura qu'il lui pardonnait de tout son cœur tout ce qu'il avait fait contre lui, qu'il ferait de son côté tous ses efforts pour vivre par la suite avec lui comme un frère, et tenterait tout pour effectuer sa réconciliation avec son oncle. Blifil garda d'abord un silence obstiné, délibérant dans son esprit s'il n'irait encore. Mais voyant enfin que les preuves étaient trop fortes contre lui, il se décida enfin à tout avouer. Il demanda alors pardon à son frère du ton le plus humilié, se prosterna devant lui et lui baisa les pieds. En un mot, il fut alors aussi profondément vil qu'il avait été auparavant profondément scélérat. Jones ne put réprimer le mépris que lui inspirait cette extrême bassesse, au point de ne pas en laisser voir une légère marque sur son visage. Il releva son frère le plus tôt possible et lui conseilla de supporter ses afflictions avec plus de force et de courage, lui réitérant en même temps la promesse de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour les adoucir. Blifil lui déclara qu'il était indigne de tout ce qu'il faisait pour lui, se répandit en remerciements outrés, et enfin promit d'aller sur le champ chercher un autre logement. Jones revint chez son oncle. Dans le cours de la conversation, M. Allworthy instruisit alors Jones de la découverte qu'il avait faite concernant les billets de banque de 500 livres. « J'ai déjà consulté, lui dit-il, un homme de loi, qui m'a dit, à mon grand étonnement, qu'il n'y avait pas de punition pour une fraude de cette espèce. Cependant, quand je considère la noire ingratitude de Black George envers vous, je regarde un voleur de grand chemin, comparativement à lui, comme une personne innocente. « Bonté du ciel, dit Jones. Est-il possible? Je suis affligé de cette nouvelle plus que je ne peux le dire. Je ne croyais pas qu'il y eût un plus honnête garçon dans le monde. » Il faut que la tentation de s'approprier une somme aussi considérable ait été au-dessus de ses forces, car des objets d'une valeur moins importante m'ont été rendus fidèlement par lui. Il faut que vous me permettiez, mon cher oncle, de donner à cette action le nom de faiblesse plutôt que celui d'ingratitude, car je suis convaincu que le pauvre garçon m'aime, et j'ai eu des preuves de son attachement que je n'oublierai jamais. Je suis même persuadé qu'il s'est repenti de cette action. Car il n'y a pas plus d'un jour ou deux, lorsque mes affaires étaient dans la situation la plus désespérée, qu'il est venu me voir dans ma prison et m'a offert tout l'argent dont je pourrais avoir besoin. Considérez, monsieur, combien a dû être forte pour un homme qui a éprouvé la plus affreuse misère la tentation d'avoir en sa possession une somme qui devait le mettre, lui et sa famille, à l'abri de la crainte de retomber désormais dans le même état. Mon enfant, dit Allworthy, vous poussez l'indulgence beaucoup trop loin. Une pitié aussi mal entendue n'est pas seulement faiblesse, mais approche beaucoup de l'injustice, et est très pernicieuse à la société en ce qu'elle encourage le vice. J'aurais pu lui pardonner sa friponnerie, mais jamais je ne lui pardonnerai son ingratitude. Et permettez-moi de vous dire, c'est avoir autant de sensibilité et de pitié qu'il nous est permis d'en avoir que de consentir à regarder la tentation comme l'excuse d'une faute quelconque. Je conviens que cela m'est arrivé à moi-même, et que quand j'ai été membre du grand jury, j'ai souvent plaint le sort d'un voleur de grand chemin, et plus d'une fois intercédé auprès du grand juge en faveur de ceux pour lesquels je pouvais faire valoir la moindre circonstance. Mais quand le crime est accompagné de crimes plus noirs encore, tels que la cruauté, le meurtre, l'ingratitude ou autres de cette nature, La compassion, le pardon sont alors coupables. Je suis convaincu que c'est un scélérat, et il sera puni au moins autant que je pourrai le punir. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton de voix si sévère que Jones ne crut pas à propos d'y répliquer. D'ailleurs, l'heure fixée par M. Weston approchait tellement qu'il n'avait que le temps nécessaire pour s'habiller. Le dialogue finit donc ici, et Jones se retira dans une autre chambre où Partridge, d'après ses ordres, l'accompagna pour l'habiller. Partridge avait eu à peine le temps de voir son maître depuis l'heureuse découverte. Le pauvre garçon ne pouvait ni contenir ni exprimer ses transports. Il avait l'air d'un homme en démence et fit presque autant de balourdises en habillant Jones que j'en ai vu faire à Harlequin quand il s'habille lui-même sur le théâtre. Sa mémoire, cependant, ne fut pas le moins du monde en défaut. Il se rappela cette foule de pronostics et de présages de cet heureux événement qu'il avait remarqué tant de fois. Mais il semble qu'il s'en présentait encore un plus grand nombre à son souvenir. Il n'oublia pas le songe qu'il avait fait la nuit qui avait précédé sa rencontre avec Jones, et termina en disant « J'avais toujours annoncé à monsieur que quelque chose me prédisait tout bas qu'un jour ou l'autre il serait en état de faire ma fortune. » Jones l'assura que cette prédiction se vérifierait aussi sûrement pour lui que tous les autres présages s'étaient vérifiés jusqu'ici pour lui-même. Ce qui n'ajouta pas peu au transport de joie que le pauvre garçon éprouvait déjà du bonheur de son maître. Chapitre 12. Approchant encore plus de la fin. Quand Jones fut habillé, il accompagna son oncle chez M. Weston. Il avait, il faut en convenir, une des plus charmantes figures qu'on eût jamais vues, et sa personne seule eût séduit le plus grand nombre des femmes. Mais nous espérons avoir déjà suffisamment prouvé dans le cours de cette histoire que la nature, en le formant, ne s'en était pas entièrement reposée, ce qui lui arrive quelquefois, sur ce seul genre de mérite pour donner du prix à son ouvrage. Sophie, qui malgré sa colère n'en avait pas mis moins de soin à sa toilette pour paraître avec le plus d'avantage possible, soin que je laisse à expliquer à celles de son sexe qui me font l'honneur de me lire, était si parfaitement belle qu'Allworthy lui-même, en la voyant, ne put s'empêcher de dire tout bas à Weston qu'il la regardait comme la plus charmante personne du monde. À quoi Weston répondit tout aussi bas, mais de manière à être entendu de tous ceux qui étaient présents, « Tant mieux pour Tom, car Dieu me donne si tous ces charmes-là ne sont pas pour lui. » Sophie devint extrêmement rouge à ces mots, tandis que Jones pâlissait et était prêt de s'évanouir sur sa chaise. À peine eut-on retiré la table à thé, que Weston entraîna Allworthy hors de la chambre, en lui disant qu'il avait une affaire de la plus grande conséquence à lui communiquer, et qu'il fallait absolument qu'il lui en parlât sur le champ en particulier, de peur qu'il ne l'oubliât. Les amants se trouvèrent alors seuls, et je ne doute pas qu'il ne paraisse étrange à beaucoup de lecteurs que des gens qui avaient tant de choses à se dire réciproquement, quand le danger et la difficulté accompagnaient leurs plus innocentes entrevues, et qui semblaient si empressés de voler dans les bras l'un de l'autre, quand il y avait tant d'obstacles dans leur chemin, aujourd'hui qu'ils pouvaient en toute sûreté et en toute liberté dire ou faire tout ce qui leur plaisait, restassent tous deux pendant quelque temps muets et immobiles. Au point qu'un étranger d'une médiocre sagacité aurait fort bien pu en conclure qu'ils étaient indifférents l'un pour l'autre. Mais enfin la chose fut ainsi, quelque étrange qu'elle puisse paraître. Tous deux s'assirent, les yeux baissés sur la terre, et gardèrent pendant plusieurs minutes le plus parfait silence. Durant cet intervalle, M. Jones essaya une fois ou deux de parler, mais il ne le put absolument pas, bégayant seulement, ou plutôt soupirant quelques mots mal articulés. Enfin, Sophie, en partie par pitié pour lui, en partie pour détourner la conversation du sujet qu'elle ne voyait que trop bien qu'il voulait entamer, lui dit « Assurément, monsieur, la découverte qui vient d'être faite doit vous avoir rendu l'homme le plus heureux du monde. » « Et pouvez-vous réellement, madame, me croire heureux ?» dit Jones en soupirant, « lorsque j'ai eu le malheur d'encourir votre disgrâce ?» « Quant à cela, monsieur, vous pouvez, mieux que tout autre, savoir si vous l'avez mérité. »« Ah, madame, vous connaissez aussi bien que moi tout ce qui m'a fait démériter auprès de vous. »« Mrs. Mella vous a instruite de toute la vérité. »« Oh, ma Sophie, ne dois-je donc jamais espérer de pardon?
Je crois, monsieur Jones, que je pourrais presque m'en rapporter à votre propre cœur, et vous laisser vous-même prononcer sur votre conduite.
Hélas, madame, c'est de la pitié et non de la justice que j'implore de vous.
La justice, je le sais, doit me condamner.
Non, cependant, pour la lettre que j'ai adressée à Lady Bellaston.
Je dois vous déclarer solennellement que ce qu'on vous en a dit est la plus exacte vérité.
Il insista alors beaucoup sur l'assurance à lui donnée par Nightingale de lui fournir un prétexte honnête de rompre avec Milady si, contre son attente, elle avait accepté sa proposition. Mais il avoua qu'il avait commis une grande imprudence en mettant une pareille lettre en son pouvoir.
Que j'en ai été cruellement puni, ajouta-t-il, par l'effet qu'elle a produit sur vous.
Je ne dois rien croire au sujet de cette lettre, que ce que vous voudrez. Ma conduite, je pense, vous prouve assez clairement que je n'y mets pas beaucoup d'importance. Mais, monsieur Jones, n'ai-je pas assez d'autres motifs d'être irrité contre vous, après ce qui s'est passé à Hampton? Vous engagez sitôt dans une nouvelle intrigue, avec une autre femme. Lorsque vous prétendiez que votre cœur gémissait sur mes souffrances, assurément, vous vous êtes conduit d'une manière bien singulière.
Puis-je croire sincère la passion que vous assuriez avoir pour moi? Ou, quand je le pourrais, quel bonheur puis-je me promettre avec un homme capable d'une si grande inconstance?
Oh, ma Sophie, ne doutez pas de la sincérité de la passion la plus pure qui jamais ait enflammé le cœur d'un homme.
Oh, la plus adorable des créatures! Pensez à ma malheureuse situation, à mon désespoir.
Si j'avais pu, ma Sophie, me flatter de l'espérance le plus éloignée, d'avoir jamais la permission de me jeter à vos pieds, bonheur dont je jouis maintenant, il n'aurait été au pouvoir d'aucune autre femme de m'inspirer une seule pensée que la chasteté la plus sévère eût pu condamner.
Moi, inconstant envers vous, oh, Sophie, si vous pouviez avoir la bonté de me pardonner ce qui s'est passé.
Qu'aucune crainte pour l'avenir ne me prive de la pitié que je réclame de vous.
Jamais repentir ne fut plus sincère.
Oh, souffrez que je me réconcilie avec le ciel et avec vous.
Un repentir sincère, monsieur Jones, peut obtenir le pardon d'un pécheur, mais seulement de la part de celui qui peut juger parfaitement de sa sincérité.
On peut en imposer aux hommes, et ils n'ont pas des moyens infaillibles pour s'en garantir.
Vous devez espérer cependant que si votre repentir peut obtenir de moi votre pardon, j'insisterai au moins pour que vous me donniez la preuve la plus forte de votre sincérité.
Oh, dites-moi quelle preuve vous exigez.
Si elle est en mon pouvoir, parlez, répondit Jones vivement.
Le temps seul, monsieur Jones, peut me convaincre que vous êtes réellement repentant et résolu d'abandonner le chemin du vice. Je vous détesterais si je vous croyais capable d'y persévérer.
Oh, ne le croyez pas. C'est à genoux que je vous prie, que je vous conjure de m'accorder votre confiance, que ma vie entière sera consacrée à mériter.
Je n'en réclame qu'une portion pour me prouver que vous la méritez. Je crois m'être suffisamment expliqué avec vous, en vous assurant que quand je vous verrai mériter ma confiance, vous l'obtiendrez.
Après ce qui s'est passé, monsieur, pouviez-vous espérer davantage?
Ne me croyez pas sur parole. J'ai une meilleure garantie, un gage plus sûr de ma constance, dont il vous sera impossible de douter.
Quel est-il? Dit Sophie, un peu embarrassée.
Voyez cette charmante figure, s'écria Jones, lui saisissant la main et l'amenant devant la glace.
Voyez ses traits, cette taille, ses yeux, cette âme qui brille à travers et qui les anime.
L'homme qui possédera tous ces trésors pourra-t-il être inconstant?
Impossible, ma Sophie, impossible. Il fixerait un Doriman, un Lord Rochester.
Vous n'en pourriez douter, si vous pouviez vous voir avec d'autres yeux que les vôtres.
Sophie rougit et fit un demi-sourire, mais, fronçant de nouveau le sourcil,
si je dois juger de l'avenir par le passé, mon image ne restera pas plus dans votre cœur quand vous cesserez de me voir que dans cette glace quand j'aurai quitté la chambre.
Par le ciel, par tout ce qu'il y a de sacré, votre image n'est jamais sortie de mon cœur. La délicatesse de votre sexe ne peut concevoir la grossièreté d'une autre. Et combien peu de telles espèces d'intrigues sont étrangères à notre cœur. Je n'épouserai jamais un homme qui n'aura pas acquis assez de délicatesse pour être aussi incapable que je le suis de faire une pareille distinction.
Je l'acquerrai, dit Jones, je l'ai déjà acquise.
Le premier moment d'espérance que ma Sophie m'a donné, qu'elle pourra devenir ma femme, l'a fait naître en moi. Et depuis ce moment, tout le reste de son sexe a cessé d'être à la fois un objet de désir pour mes sens et de passion pour mon cœur. Fort bien, mais le temps seul peut m'en donner la preuve. Votre situation, Monsieur Jones, est maintenant changée, et je vous assure que j'éprouve une grande satisfaction de ce changement. Vous ne manquerez plus l'occasion d'être auprès de moi et de me convaincre que votre cœur est changé aussi.
Oh, mon ange, combien j'aurai de grâce à rendre à votre bonté.
Êtes-vous donc assez généreuse pour avouer que mon bonheur vous cause quelque satisfaction? Croyez-moi, croyez-moi, madame, c'est vous, vous seule, qui avez donné quelque réalité à mon bonheur, puisque je lui dois la chère espérance. Oh, ma Sophie, qu'elle ne soit pas éloignée. J'obéirai fidèlement à vos ordres. Je n'ose pas vous presser plus que vous ne voulez me le permettre. Souffrez cependant que je vous conjure de ne pas me soumettre à une épreuve trop longue. Oh, dites-moi quand je puis espérer que vous serez convaincu de ma sincérité.
Quand je vous ai déjà tant promis volontairement, j'espère, Monsieur Jones, que vous ne me presserez pas davantage.
Je ne le veux pas absolument.
Oh, ne jetez pas sur moi un regard aussi sévère, ma Sophie. Je ne vous presse pas, je n'ose pas vous presser.
Cependant, permettez-moi au moins encore une fois de vous prier de fixer l'époque.
Oh, considérez l'impatience de l'amour.
Un an, peut-être.
Oh, ma Sophie, vous avez nommé l'éternité.
Peut-être un peu plus tôt. Je ne veux pas être tourmenté. Si votre passion pour moi est telle que je dois la désirer, je crois que vous pouvez maintenant être tranquille.
Tranquille, Sophie.
Ah, ne me donnez pas un nom si froid au bonheur dont je jouis.
Oh, pensée ravissante.
Ne suis-je pas assuré qu'il viendra ce jour heureux où je pourrai vous appeler en effet ma Sophie, où il n'existera plus aucune crainte dans notre âme, où j'aurai ce grand, ce délicieux, ce ravissant bonheur de rendre ma Sophie heureuse? Eh bien, monsieur, ce jour, il est en votre pouvoir de l'avancer.
Oh, mon cher ange, ange du ciel, ces mots m'ont jeté dans le délire de la joie.
Mais je dois, je veux remercier ces lèvres charmantes qui ont prononcé mon bonheur avec tant de grâce. Il la saisit alors entre ses bras et lui donna un baiser avec une ardeur qu'il n'avait jamais auparavant osé se permettre. En cet instant, Weston, qui avait écouté depuis quelque temps à la porte, entra brusquement dans la chambre et, avec sa voix et ses expressions de chasseur, se mit à crier « À elle, mon garçon, à elle, ne la quitte pas. C'est ça, de petite douceur. Oh, c'est ça, bien. Tout est-il convenu ? A-t-elle fixé le jour, mon garçon?
Sera-ce demain ou après-demain?
Ce ne sera pas une minute plus tard qu'après-demain, j'y suis résolu.
Je vous en conjure, monsieur, dit Jones, que je ne sois pas l'occasion.
Va te promener, je te croyais un gaillard plus alerte et trop vif pour te laisser arrêter à toutes ces ruses féminines. Je te dis que tout cela n'est que de la niaiserie.
Palsambleu, elle t'épousera ce soir de tout son cœur, n'est-il pas vrai, Sophie?
Allons, avoue-le sincèrement, et sois vrai une fois dans ta vie.
Et quoi, es-tu muette? Pourquoi ne parles-tu pas?
Pourquoi parlerai-je, monsieur, puisqu'il paraît que vous êtes si bien instruit de ce que je pense?
Voilà une bonne fille. Ainsi donc tu consens?
Non, assurément, monsieur. Je n'ai pas donné un pareil consentement.
Ne veux-tu donc pas l'épouser demain, ni après-demain?
Assurément, monsieur, ce n'est pas mon intention.
Je m'en vais te dire pourquoi tu ne le veux pas. C'est parce que tu te plais surtout à être désobéissante, à tourmenter et à vexer ton père.
Je vous en prie, monsieur, dit Jones en l'interrompant.
Je te dis que tu es un sot, s'écria Weston.
Quand je lui défendais de penser à toi, ce n'était que soupirs, plaintes, langueurs, correspondances secrètes.
Maintenant,
que je suis pour toi, elle est contre toi. Tout cela n'est que de l'esprit de contradiction, pas davantage. Elle croit n'avoir pas besoin d'être guidée ni gouvernée par son père, voilà la vérité. C'est seulement pour me désobliger et me contrarier. Qu'est-ce que mon père exige de moi ? S'écria Sophie. Ce que j'exige de toi, donne-lui ta main à l'instant. Eh bien, monsieur, je vous obéirai. Voici ma main, monsieur Jones. Fort bien. Et consentez-vous donc de l'épouser demain matin ? Je vous obéirai en tout, monsieur. En ce cas, le jour est fixé à demain matin. Le jour sera donc fixé à demain matin, puisque vous l'exigez, mon père. » Jones tomba aux genoux de Sophie et lui baisa la main dans un transport de joie, tandis que Weston sautait et dansait autour de la chambre en criant « Où diable est Allworthy ? Il est sans doute à présent à causer avec ce damné procureur de Dowling, tandis qu'il devrait penser à toute autre chose. » Il sortit alors brusquement pour le chercher, et laissa très à propos les deux amants se livrer seuls pendant quelques minutes à la joie tendre qu'ils ressentaient. Mais il revint bientôt avec Allworthy en disant « Si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez le lui demander vous-même. Sophie, n'as-tu pas consenti à être mariée demain ?»« Telles sont vos volontés, monsieur, et je n'ose pas me rendre coupable de désobéissance. » »« J'espère, madame, que mon neveu se rendra digne de tant de bonté. » et sera toujours aussi reconnaissant que moi-même du grand honneur que vous avez fait à ma famille. Une alliance avec une personne aussi charmante et aussi supérieure en tout serait en effet un honneur pour les plus grands seigneurs de l'Angleterre. « Oui, » s'écria Weston, « mais si j'avais voulu entendre les oui, les non, les aujourd'hui, les demain, vous n'auriez pas eu cet honneur de longtemps. J'ai été obligé d'user d'un peu de mon autorité paternelle pour l'amener là. « J'espère que non, monsieur, » dit Allworthy. « J'espère qu'il n'y a pas eu la moindre contrainte. » « En ce cas, » répondit Weston, « vous pouvez l'engager à se dédire si vous voulez. »« Te repens-tu dans le fond du cœur de ta promesse ?» dit Sophie. « Non, mon père, je ne m'en repens pas, et je crois que je ne me repentirai jamais d'aucune promesse en faveur de monsieur Jones. »« Allons, mon neveu, » dit Allworthy, « je vous félicite de tout mon cœur, car je vous regarde comme le plus heureux des hommes. » Et vous me permettrez aussi, madame, de vous faire mon compliment à cette heureuse occasion. Je suis convaincu, en effet, que vous vous êtes donné à un homme qui sera sensible à tout votre mérite, et qui fera tous ses efforts pour tâcher de s'en rendre digne. Tous ses efforts, s'écria Weston, je garantis qu'il les fera. Écoutez-moi, Allworthy, je gagerai 5 livres contre une couronne que nous aurons un petit garçon de demain en 9 mois. « Mais je t'en prie, dis-moi quel vin tu veux boire. Veux-tu du Bourgogne, du Champagne ou tout autre ? Car grâce au ciel, nous allons boire toute la nuit. »« Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, » dit Allworthy, « mais mon neveu et moi nous sommes engagés avant que je soupçonnasse que son bonheur fût si prochain. »« Engagé ?» dit Weston. « Ne me parle pas de cela. Je ne veux pas te quitter de toute la nuit dans une pareille occasion. Tu souperas ici, quand le diable y serait. » « Il faut que vous me pardonniez, mon cher voisin, » répondit Allworthy, « mais j'ai donné ma parole, et vous savez que je n'y manque jamais. »« Qui donc, je t'en prie, t'a engagé ?» Monsieur Allworthy le lui dit, et lui nomma même les conviés. « Morbleu, » reprit Weston, « j'irai avec toi. Sophie y viendra aussi, car je ne veux pas te quitter de toute la nuit. Et il serait trop cruel de séparer Tom de Sophie. » Cette proposition fut aussitôt acceptée par Monsieur Allworthy. Sophie y consentit après avoir obtenu de son père une promesse particulière qu'il ne dirait pas un mot de son mariage.